Franchement, les moments les plus durs, c'est quand tu vois une femme enceinte arriver qui dit qu'elle n'a pas mangé depuis 2 jours et que tu es en France. Tu vois? Et qui te dit qu'elle a dormi à l'arrêt de bus. Ça, c'est des moments trop durs. Donc, quand tu vois des nouveau-nés, pareil, des nouveau-nés, tu te dis qu'ils ont dormi dehors avec leur maman, sur le trottoir.
Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant.
Donc tu te dis, purée, ces familles, elles cumulent tellement, en fait. Elles cumulent la précarité, elles cumulent l'exil, parce que c'est pas facile de quitter le pays où t'es né, où t'as grandi, où t'étais bien, comme si c'était un choix de vie, en fait. Mais non, c'est pas un choix. C'est que, voilà, c'est des personnes, elles ont pas eu le choix, et ça, il y a beaucoup de gens, ils comprennent pas. Et en plus de ça, bah, se rajoute la maladie, la mort, tout ça. Tu te dis, purée, elles cumulent tout à tous les niveaux.
Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum, Samra.
Alaikum salam.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Ben, merci à toi pour l'invitation, je suis très honorée.
Donc, si je peux te présenter, je vais essayer de te présenter assez rapidement. Tu me dis si je me trompe, donc tu es sage-femme.
Oui, c'est ça.
Tu es présidente de l'association Un Petit Bagage d'Amour.
Oui, tout à fait.
Donc, qui est basée en France. Et donc, tu jongles un peu entre ton métier de sage-femme et ton rôle dans l'association.
C'est ça. Et le troisième rôle familial, mais bon, c'est une rôle parenthèse. Familial.
Oui, mais c'est, ça prend une grande part de notre temps. Donc oui, rôle familial.
Ça prend plus raison. De temps, je crois.
Donc, dis-moi ça. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton association, Un Petit Bagage d'Amour?
Oui, donc alors l'association... Elle a vu le jour en 2016. Donc, comme tu l'as dit, donc, je suis sage-femme depuis 10 ans. Et je travaillais dans un hôpital donc, à Paris qui s'occupe des femmes enceintes et des femmes avec bébés, dans la précarité notamment. Parce que on prend en charge des mamans qui ont des troubles médicaux, psychosociaux. Et donc, il y a beaucoup de précarité dans les patients de prise en charge. Et l'année où la sauce a vu le jour, en fait, j'étais enceinte.
D'accord.
Donc, j'étais un petit peu plus sensible à tout ce qui était... je pense que c'était un peu hormonal, quoi. Des choses que je voyais avant, mais qui n'avaient pas eu le même impact chez moi. Mmh. Là, notamment, je devais transférer une femme enceinte de jumelles, parce qu'on ne faisait pas les accouchements dans cet hôpital. Au moment où elles se mettent en travail, en fait, on les transfère dans l'hôpital où elles sont suivies pour accoucher. Et donc, cette dame, je lui demande de prendre ses affaires pour ses petites. Et en fait, elle n'avait rien. Elle avait un sac plastique avec 2-3 trucs dedans, genre brosse à dents, et voilà. D'accord. Mais elle n'avait pas d'affaires pour ses bébés. Et donc, elle m'avait dit, j'ai rien, en fait. Je n'ai pas les moyens, j'ai rien. Donc, elle est partie à la maternité comme ça, en fait, sans rien.
Okay.
Et du coup, ça m'a complètement bouleversée, en fait. Moi-même, j'étais enceinte. Je venais de préparer le bagage de mon bébé.
Oui, parce qu'en général, enfin, les femmes savent très bien, mais ou les hommes qui sont passés par là.
Oui, c'est vrai. Les autres, voilà. Donc, quand on est enceinte, on prépare ce qu'il faut pour l'arrivée du bébé vers le 7e mois à peu près. Et on y prend un grand plaisir. Et ça permet de concrétiser le bébé qui va venir, en fait.
En général, un sac, une petite valise avec des vêtements de rechange, des grenouillères, des biberons.
Voilà, ses premiers petits habits, ses couches, ses affaires de toilette.
Il n'y a pas de biberon au début, non. Ils sont trop petits pour un biberon.
Non, non. Le biberon, non, non, non. On encourage l'allaitement maternel à fond, là.
Ouais.
À moins qu'il y ait des femmes qui, d'emblée, savent qu'elles ne vont pas allaiter. Du coup, bon, elles prennent des biberons dans le sac. Mais sinon, non, il n'y a pas besoin. Puis au cas où, de toute façon, la maternité, elle fournit quand il y a besoin.
C'est marrant, tu vois, ça, c'est des choses qui évoluent dans les mœurs et dans ce qui est considéré comme bien ou pas bien.
Mmh.
Pendant un long moment, l'allaitement, c'était considéré comme... comme pas bien,
ouais.
Dans les années 90.
Dans les années 80, ouais, c'est vrai qu'il y a eu vraiment des périodes, des longues périodes où l'allaitement artificiel, il était limite sacralisé. Et là, c'est bien, on revient à l'allaitement maternel, quoi. Mais tout ça, c'était une histoire de laboratoire.
En 20 ans, on peut être diabolisé parce qu'on allait.
C'est ça.
Et puis ça revient.
Exactement.
Et du coup, je te laisse continuer.
Ah oui, et du coup, le soir même, en fait, je suis rentrée chez moi. Et j'ai parlé à mon mari, je lui raconte un peu la scène, je lui ai dit, ouais, il faut faire quelque chose là, j'ai envie de monter mon asso, je lui ai dit ça le soir même. Après, il m'a dit, oui, c'est une bonne idée, mais il ne s'attendait pas à ce que la semaine d'après, la chambre de ma fille soit envahie d'affaires, en fait.
Ouais.
C'est, ça a été très, très vite. En fait, le soir même, j'ai créé une page Facebook qui a vraiment tourné dès le début, en fait. Dès le soir, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui suivaient la page, des propositions de dons. La semaine d'après, si tu veux, vraiment, j'étais envahie au niveau de chez moi. J'avais plus de place pour marcher dans la chambre de mon bébé. Donc, c'était bien. De toute façon, je voulais pas le mettre dans sa chambre au début. Et puis après, bah, en fait, vite fait, une amie m'a rejoint dans le projet et puis d'autres amis. Et ben voilà, au point qu'aujourd'hui, l'association a pris une grande ampleur. On a ouvert des antennes dans d'autres villes et ça continue, quoi. Il y a d'autres antennes qui sont en train de voir le jour.
D'accord, donc ça a commencé dans quelle ville tout ça?
Melun.
Melun. D'accord.
Ça a commencé à Melun, voilà.
Okay.
Donc au début chez moi, après on a loué un garage. Enfin, mon mari, ça m'a trop fait rire parce qu'au début c'était un garage pour sa voiture et ça s'est transformé en local.
Mmh.
Du coup, sa voiture dormait dehors. Après, on a cherché un local sur Montreuil. En fait, on a cherché un local toujours sur la page là, Facebook.
Mmh.
Vu qu'il y avait beaucoup de gens qui nous suivaient, dont des personnes du monde de la télé. L'une d'elles nous a mis en contact en fait avec un producteur réalisateur de films qui avait un hangar qui était vide à Montreuil. Donc il s'appelle Halil Cherti,
okay.
Que je remercie énormément. donc il nous a donné gratuitement prêté un local pendant. Au début c'était parti pour 6 mois. On est resté 2 ans dans ce local à Montreuil.
D'accord.
Et on avait 100 mètres carrés dispo pour pouvoir entreposer tous les dons qu'on recevait. Et pour pouvoir donner, enfin préparer les affaires, les bagages et distribuer aux mamans dans la précarité. Donc après, pareil.
Ouais, je suis en train de regarder la distance sur Google Maps là, de Melun à Montreuil. Vu que je ne suis pas de la région parisienne, je ne connais pas très bien. Donc 50 minutes.
Ouais, c'est ça.
Du coup, tu faisais les allers-retours.
Oui, c'est ça. Je faisais les allers-retours. Ben, j'allais souvent en transport, en fait, c'était plus simple. C'était bien desservi.
Ouais.
Et j'avais beaucoup d'aide aussi. Hein. Franchement, mes amis, elles ont assuré dès le début. Hein. J'ai beaucoup délégué.
Tu as partagé ça sur des groupes Facebook de femmes enceintes ou de femmes?
Voilà. Au début, c'était des groupes de réfugiés, d'aide aux réfugiés.
OK.
Donc, il y avait plein de groupes d'aide aux réfugiés qui ont beaucoup soutenu le projet aussi. Mmh. Et ensuite, effectivement, ça tournait pas mal dans les groupes de femmes enceintes, donc qui, pareil, étaient dans la même sensibilité. Même aujourd'hui, hein, on a beaucoup de femmes enceintes ou de femmes qui viennent d'avoir des bébés qui nous contactent pour les dons.
Mmh.
Et qu'est-ce qui s'est passé après? En fait, il y a eu tellement de trucs, c'est dur un peu de faire chronologiquement.
Bah, je suis sur votre site, là, en fait. Je vois qu'on a plusieurs, il y a plusieurs onglets. Il y a « Je suis enceinte »,« Je suis maman »,« Je suis née dans un besoin ». J'imagine que tout ça, il n'y avait pas avant. Quand vous avez commencé, il n'y avait pas de site, il n'y avait pas de…
Non, il n'y avait pas de site au début.
Juste une page Facebook.
Juste une page Facebook. Ouais. Tout se passait sur la page ou un MP. Mmh. Et après, y a le site qui a vu le jour grâce à une Annie Liseron qui suivait aussi la page et qui était aussi dans une association d'aide aux réfugiés et qui a été très, très soutenante pour le projet dès le début et encore aujourd'hui.
Mmh.
Et par rapport au local, donc voilà. Après, en fait, les assistantes sociales des maternités de Paris et des PMI et des diverses structures sociales ont commencé progressivement à nous connaître et à nous contacter.
Parce que c'était quoi votre action au départ? C'était d'aider les femmes enceintes, mais comment vous... ça marchait comment en fait?
Ça marchait comment? En gros, on nous signalait des femmes à la rue qui n'avaient pas d'affaires, des femmes enceintes dans la grande précarité, des voisins qui signalaient, des amis ou des personnes surtout qui aidaient les réfugiés. C'était surtout ça au début, les signalements.
Beaucoup de réfugiés.
Qui nous contactaient. Voilà, beaucoup. Au début, c'était, je ne sais pas si tu te rappelles, les femmes qui étaient, il y avait des femmes, des hommes qui étaient à Porte de la Chapelle, dans les tentes.
D'accord, oui, très bien.
Donc voilà, il y avait des femmes enceintes parmi ces réfugiés. Donc au début, tout au début, c'était pour ces femmes-là qu'on nous contactait.
D'accord, du coup, on vous contactait, c'était des connaissances ou des gens qui voyaient dans la rue et qui disaient « j'ai croisé telle
personne ». C'était surtout des associations qui faisaient des maraudes sur place.
Ok.
Qui distribuent à manger, des habits, tout ça, et qui nous contactaient parce que pour les affaires bébés, en fait.
D'accord.
Ou pour la femme enceinte, pour la maternité.
Ces personnes-là vous donnaient des locations et vous vous rendiez sur ces endroits.
Voilà. Donc souvent, ces femmes avaient quand même des puces de téléphone, donc elles nous donnaient les numéros. D'accord. En nous disant la langue qui était parlée. Et après, on se débrouillait pour aller sur place ou on donnait rendez-vous aux personnes qui suivaient ces femmes pour mettre les bagages aux intermédiaires. Où on allait directement voir ce qui se passait sur place, quoi, au niveau des tentes. Au début, c'était comme ça.
Ok. Et vous aviez décidé d'un bagage type?
Alors oui, moi au début j'avais fait un bagage type qui suivait la maternité où je travaillais, l'autre maternité, parce que j'avais deux sites, deux lieux de travail en fait à mi-temps chacun. Et donc l'autre maternité où je travaillais, c'était des comment dire, c'était une maternité qui faisait des accouchements. Du coup, il y en avait une liste pour la valise. Donc il y avait en
D'accord.
gros, pour résumer, des couches, des produits d'hygiène pour le bébé. Pour la maman aussi, des petits bodys pour accueillir le bébé, des chaussettes, des gilets en laine, des pyjamas, gigoteuses, et en rajouter forcément des porte-bébés. Parce que dis-toi que c'est des mamans qui n'avaient même pas de quoi prendre le bébé quand elles sortaient de la maternité. Donc des fois, elles sortaient avec le bébé
Oui.
sous le bras, quand on n'avait pas de porte-bébé sous le bras, avec les valises à côté. Enfin, t'imagines la précarité, quoi.
Ouais. Et ça a fonctionné grâce au don.
Ah oui, grâce aux dons, ça a fonctionné, ça fonctionne encore toujours aujourd'hui grâce aux dons. Les particuliers, franchement, on croule sous les dons. Voilà, vraiment, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous donnent, tous ceux qui nous suivent. Quand tu écoutes les médias, des fois, tu as l'impression que, ben non, en fait, les gens, ils sont hostiles aux réfugiés, hostiles à l'accueil et tout ça. Mais je t'assure que les gens, ils sont très, très solidaires et très sensibilisés à l'accueil des réfugiés.
Et c'est par rapport aux réfugiés ou par rapport aux bébés, tu penses?
Il y a les deux, hein. En fait, si tu veux, c'est des personnes dans tous les cas particulièrement vulnérables. La population qu'on vise, c'est des femmes enceintes et des bébés forcément qui arrivent. Donc peut-être qu'il y a de ça qui joue aussi, mais quand je vois aussi toute la solidarité qu'il y a à côté par rapport aux hommes réfugiés, tu vois,
Oui.
je me dis que bah, c'est une cause globale, quoi. Les gens, ils sont sensibilisés de toute façon à la précarité. Et peu importe d'où elle vient.
C'est clair. Là, je vois que vous avez mis des chiffres sur votre page. 150 petits bagages d'amour distribués chaque semaine. Au début, vous n'avez pas autant de bagages.
Au début, c'était, on va dire, peut-être 3-4 bagages par semaine. Donc, au début, on a commencé tout doucement. Et puis après, il y a eu diverses choses qui ont fait qu'on s'est fait beaucoup connaître, beaucoup plus connaître. Mais on est passé dans l'émission des maternelles,
D'accord.
une journaliste qui était venue faire un reportage pour nous. Donc, elle nous a suivis pendant toute une journée pour voir comment on travaillait, à qui on distribuait. L'époque où elle était venue, on avait été dans un centre de réfugiés, distribuer des bagages à une famille syrienne, une femme qui attendait un bébé.
D'accord.
Donc voilà, enfin, ce reportage, je sais qu'après on a reçu énormément de messages, énormément de dents. En plus, tu vois, c'est une émission qui touche particulièrement les femmes enceintes. Donc voilà.
Oui, ben c'est clair.
Ensuite, on a eu encore d'autres opportunités qui nous ont donné de la visibilité. On a eu des trophées comme EDF. EDF, on avait concouru pour un prix et puis on est arrivé premier. On a gagné, je sais plus combien, 10 000 euros, je crois, à l'époque. Il y avait Total aussi, la fondation Total, pour qui on a gagné un prix. On est arrivé premier aussi. Il y avait le Crédit coopératif. Et puis, on a eu plusieurs passages aussi sur Europe 1 pour les trophées de l'avenir. Pareil, qui nous ont donné énormément de visibilité. On a eu une vidéo qui a eu plusieurs centaines de milliers de vues. Et
Oui.
suite à ça aussi, beaucoup, on a beaucoup, beaucoup croulé sous les dons et les demandes. Parce que non seulement les gens qui donnent nous ont vus, mais il y a aussi certains travailleurs sociaux qui ne nous connaissaient pas et qui ont pu nous contacter pour faire des demandes pour les patientes enceintes ou accouchées qu'elles suivaient.
Donc en fait, vous avez croulé non seulement sous la demande, sous les dons,
Voilà.
mais vous étiez que deux, trois au départ. Donc c'était dur à gérer.
Alors tout au départ, on était 3-4, mais en fait, franchement, en même temps, cette visibilité, elle nous a donné aussi des bénévoles.
OK.
Donc depuis, franchement, on a beaucoup de bénévoles, on a un petit pool de bénévoles, on va dire, récurrents, de base, qui est toujours là. Une dizaine à peu près.
Dur.
Voilà, un noyau dur, tout à fait. Et bah, qui peuvent organiser les permanences. Ce que je ne t'ai pas expliqué, après Montreuil, il y a eu d'autres choses. Donc, on a dû quitter les locaux à Montreuil
D'accord.
parce qu'à un moment donné, pauvre Aline Cherty, il devait récupérer son local. En fait, il voulait. Il avait lancé un appel au moment où nous, on cherchait, si tu veux. Pour que quelque chose de bien se passe dans son local. Il voulait qu'il y ait la baraka dans son local avant d'y aménager, en fait. Donc, bah, pour le coup, il a tout gagné. Parce que vraiment, il se passait des choses formidables dans son local. On a pu faire énormément de bonnes actions, alhamdoulilah. Et bah, au bout de 2 ans, en fait, il devait refaire des travaux, tout ça, pour pouvoir y emménager, quoi. Parce que c'était un hangar à la base.
D'accord.
Donc, après, on a cherché des locaux sur Montreuil. La mairie nous avait fait comprendre clairement, on avait eu des rendez-vous avec eux, que ce n'était pas possible en fait d'avoir un local pour nous, qu'il y avait énormément d'attentes au niveau des associations et qu'il fallait soit qu'on partage un local, soit qu'on attende. Donc, on n'en avait pas le temps, en fait, parce qu'on avait tout notre stock qui était à Montreuil et qu'on devait stocker quelque part, quoi.
Ouais.
Alors, on a une bénévole, la plus jeune bénévole de notre association, donc Clémence, qui a écrit un mail le soir même. En fait, elle s'occupait, elle, de gérer les mails, de
OK.
demandes, de rendez-vous et tout ça. Donc, le soir même, elle a envoyé un mail à toutes les paroisses de Paris pour chercher un local. Et il y a une seule paroisse qui nous a répondu favorablement, enfin qui nous a répondu tout court d'ailleurs, c'est le prêtre de l'église Saint-Sulpice à Paris.
D'accord.
Donc, c'est la plus grande église de Paris, il faut savoir.
Je ne sais
Plus
pas,
grande église,
je
même.
l'apprends.
En fait, si tu veux, là, en ce moment, tout se passe là-bas. Tout se passe là-bas parce que depuis que la cathédrale Notre-Dame a brûlé, c'est eux qui prennent tout, en fait. Tout ce qui était obsèque de Jacques Chirac et tout ça, c'était là-bas.
Ok,
Et il me
d'accord.
semble que c'est la plus ancienne aussi, l'église
Je
de
suis un
Paris. Il me
culte.
semble que c'est la plus ancienne. Non, non, mais moi aussi, t'inquiète pas, avant j'étais un culte aussi. C'est juste que maintenant, j'y passe une fois par mois à peu près. Donc, je connais un petit peu tous ces lieux. J'ai dû me renseigner historiquement quand même, savoir où j'allais.
Ok, je vois, c'est plutôt bien situé, c'est vraiment.
Ah ouais, non, mais c'est super bien situé. C'est très bien desservi, c'est au centre de Paris. Donc, c'est facilité d'accès pour les bénévoles, pour les gens qui veulent donner et pour les bénéficiaires surtout, qui
D'accord.
sont pas toujours, qui sont jamais véhiculés, donc qui
Oui.
ne sont dépendantes que des transports. Donc pour elles, c'est top, quoi. Vraiment, la baraka jusqu'au bout.
Alhamdoulilah.
Alhamdoulilah.
Du coup, ça, c'était quoi, un an après? 2 ans, tu m'as dit, tu es resté 2 ans dans le
Ouais,
local, donc on est en
2 ans.
2018 maintenant.
Oui, c'est ça. On a déménagé en mai 2018, 2 semaines avant que j'accouche.
Ok.
Du troisième bébé, parce qu'entre-temps, il y en avait un troisième.
Super.
Et du
Ok,
coup,
je te laisse continuer.
en fait, voilà, le prêtre donc nous a. On a eu des rendez-vous avec lui pour formaliser les choses. On a fait une convention. On a rencontré donc les paroissiens, très actifs au niveau de l'église, qui ont monté eux-mêmes un petit pool de bénévoles pour venir nous aider, en fait, quand on venait aux permanences. Donc, les permanences, elles ont lieu 2 à 3 fois par semaine en fonction des disponibilités des bénévoles. C'est pas des permanences fixes, en fait. On ne peut pas dire, tiens, on est là tous les lundis, tous les mardis. On ne sait pas, on ne sait jamais vraiment à l'avance.
D'accord.
On sait peut-être un mois à l'avance, quoi, pouvoir organiser les choses.
Oui.
Donc, voilà, il y a une très, très belle coexistence qui existe à l'église Saint-Sulpice entre des bénévoles de toutes origines, de toutes religions.
C'est super.
Ouais, c'est vraiment génial. Et le jour où
Bien.
j'ai été rencontrer le prêtre et les paroissiens, en fait, j'étais avec une bénévole qui était là un peu dès le début aussi, Camille, et que j'ai appris le jour-là, en fait, qu'elle était juive. Donc, on était une juive musulmane et des chrétiens en train de discuter autour d'un même thème commun qui était l'accueil des bénéficiaires, comment pouvoir aider ces femmes enceintes réfugiées. C'était trop mignon.
J'imagine, c'est clair que c'est super, c'est un bon exemple. Et tu disais que c'est pas des permanences que vous faites enfin, c'est pas régulier.
C'est pas des dates fixes avec des horaires fixes. C'est vraiment, on a des bénévoles. Depuis, en fait, on a créé des groupes WhatsApp de bénévoles. Il y a environ 300 membres dedans. Il y a les groupes Facebook fermés aussi, service d'aide aux jeunes mères, Cigogne. En fait, on s'appelle les Cigognes, les bénévoles. Cigogne, un petit bagage d'amour. Donc, c'est un groupe fermé où, quand il y a des bénévoles qui sont disponibles et qui ont l'habitude de faire des bagages, qui peuvent encadrer d'autres bénévoles qui veulent arriver seulement pour le jour-là, ou des bénévoles récentes, ou voilà. Parce qu'il faut forcément qu'il y ait toujours quelqu'un qui connaît un petit peu, quoi, pour pouvoir bien faire les choses.
En termes de logistique, comment ça se passe? Vous avez une zone où vous récupérez toutes les livraisons?
Voilà, c'est ça. Alors, en termes de logistique, donc, quand il y a des personnes qui veulent donner des dons qui nous intéressent, c'est-à-dire en ce moment, c'est particulièrement les habits bébés 0-3 mois, pour pouvoir mettre dans les bagages, les produits d'hygiène, les porte-bébés, les poussettes, tout ça, quand il y a des gens qui veulent donner, on leur dit de venir à l'église Saint-Sulpice quand nous y sommes. Donc, on leur donne les dates et les heures auxquelles on y est. Parce qu'ils ne peuvent pas venir déposer en dehors des horaires où nous sommes présents. Sinon,
D'accord.
ça encombrerait trop les paroissiens, tout ça, ils ont pas, enfin, ils ont autre chose à faire, quoi. Du coup, il faut vraiment qu'on soit présent quand les gens veulent venir donner. Donc, ils nous envoient des messages privés sur la page ou par mail quand ils veulent venir donner, qu'on leur donne les dispos.
D'accord.
Et comment ça se passe en amont? quand on veut faire une permanence, ben, les personnes qui ont l'habitude et qui sont disponibles, elles créent des dates, des événements sur le groupe Facebook. Et après, les bénévoles s'inscrivent. Et du coup, après, on communique à ceux qui nous envoient des messages, des demandes, tout ça.
C'est comme pour les maraudes, par exemple, des événements et on peut s'inscrire. Vous savez à l'avance à qui vous avez donné les bagages?
Oui, on sait, ouais, c'est sur rendez-vous uniquement. Si tu veux, au début, tout au début, on fonctionnait sans rendez-vous. Les personnes venaient directement, il n'y a pas besoin de justificatif hein, pour venir. Voilà. Et un peu, c'était un peu compliqué à gérer parce que parfois, on pouvait se retrouver avec 5 rendez-vous, 5 personnes, je veux dire. Parfois, c'était 50 et il y avait trop d'attente. Donc, du coup, on a dû être obligé de faire un système avec des rendez-vous, que les assistantes sociales nous contactent en amont pour nous faire les demandes. En fait, maintenant, les personnes bénéficiaires ne peuvent pas nous contacter directement. Il faut qu'elles passent par leurs assistantes sociales pour qu'on soit sûr que ce soit vraiment des personnes qui ont besoin.
D'accord.
Voilà, parce qu'on a déjà eu des petites surprises, mais je vais passer un petit peu dessus. Et puis, du coup, elles viennent ben, à l'heure du rendez-vous et la date qu'on leur a transmis. On leur a transmis l'adresse aussi. L'assistante sociale, ouais. En fait, s'occupe de faire le lien, de tout leur transmettre. Et donc, le jour-là, ben, on se répartit, en fait. Il y en a qui préparent les affaires en fonction des stocks qu'on a. Il y en a qui trient les dons qu'on reçoit.
D'accord.
Et puis, il y en a qui rangent un petit peu le local aussi.
OK.
Donc, c'est un petit travail de fourmi où chacune a son rôle.
Du coup, il y a une partie que vous achetez, en fait, à chaque fois. Et une partie que vous recevez en don.
Voilà, et ça arrive qu'on fasse des achats avec grâce aux donations qu'on a. Aux dons qu'on a des prix qu'on a gagnés, des gens qui donnent sur PayPal régulièrement ou sur notre compte bancaire ou par chèque, ou qui nous apportent les choses des fois, ils nous apportent les choses directement en nature, quoi. Mais ça nous arrive donc d'acheter des choses qui s'écoulent très rapidement, comme les couches, les produits d'hygiène. Ça nous arrive aussi les portes-bébés, parce que les portes-bébés, ben, y a énormément de demandes et énormément de besoins.
Oui.
On n'en reçoit pas assez, donc on est obligé d'en acheter, souvent.
Mmh. Un panier, ça coûte combien ? Un bagage, pardon.
Bonne question. On a essayé, je crois, un jour d'estimer le prix d'un bagage. Franchement, je crois qu'on n'a jamais réussi à...
Ça dépend de la qualité,
un bagage,
ça dépend
à peu près. Voilà.
Le nombre de...
Les produits d'hygiène, tout ça, si tu veux le plus cher, je crois que c'est les couches, c'est les paquets de couches. Ça doit revenir à 15 euros à peu près.
Et aussi le porte-bébé.
Les porte-bébés, ouais. Porte-bébé, en fait, on avait fait une commande sur un site où c'était vraiment... je pense que ce n'était pas de bonne qualité. On avait peut-être le porte-bébé à 10 euros. Quoi.
Ouais.
Là, on essaie de trouver justement des partenariats avec des entreprises de porte-bébé.
D'accord.
Donc, on avait été au Salon du Bébé l'année dernière et on avait réussi à louer des liens. Il y en avait une, il y avait une marque de porte-bébé connue qui nous avait envoyé de très, très bonne qualité, qui nous avait envoyé plein de porte-bébé, qui était vraiment très touchée par l'action aussi. Et donc, elle voudrait qu'on pérennise un petit peu ce partenariat. On avait réfléchi un petit peu comment... Est-ce que les femmes qui ont acheté des porte-bébés, qui n'en ont plus besoin, peuvent venir les déposer dans les luttes collectes, par exemple?
Oui.
Même, on est en train de réfléchir. C'est en train de se mettre en forme.
OK. C'est cool.
Et puis, on a des partenariats aussi, des choses qu'on n'achète pas. Comme les tétines, la marque MAM, qui nous donne tous les mois des tétines, des biberons. Voilà.
Génial.
Donc, les tétines, les biberons, on n'achète pas. Ouais, ils sont au top.
Et du coup, vous êtes basé sur dans plusieurs villes maintenant.
Voilà. Alors, on a commencé... La base, c'est à Paris, donc à l'église Saint-Sulpice, actuellement. On a une antenne à Pantin qui commence aussi à se développer. Mmh. Donc, Pantin, c'est au niveau du laboratoire écologique zéro déchet.
D'accord.
Donc c'est un lieu qui est tenu par un couple très formidable, Michel et Amélie, qui en plus de développer, en fait ils ont un énorme lieu de stockage pour nous, 4000 m². Donc quand on a des grosses livraisons, des grosses palettes et tout, c'est chez eux que ça se passe et on rapatrie sur Paris 6.
Okay.
Et là ils sont en train d'organiser aussi des permanences à Pantin, donc ça c'est top.
Ok, c'est cool.
En plus de ça, ils font un truc en parallèle qui est très très, enfin qui est formidable, c'est qu'ils font de l'accueil d'urgence. Quand on nous appelle, parce que ça arrive qu'on nous appelle le petit bagage d'amour pour des femmes à la rue enceintes, des femmes enceintes à la rue, des bébés dehors avec leur maman, parce que malheureusement on n'en parle plus autant, mais il y en a toujours autant en fait. C'est Shiraz, ma collègue, ma coprésidente, qui gère un petit peu ce pôle. En fait, Amélie Michel accueille ses mamans. Ils ont aménagé trois chambres vraiment pour un accueil très provisoire,
Incroyable.
mais qui sont très 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 confortables pour ces mamans et bébés.
D'accord. Parce que ces personnes, vous leur fournissez tout ça, mais du coup, ils doivent venir le récupérer avant d'accoucher.
Ouais, dans l'idéal, voilà, c'est ça. Dans l'idéal, c'est avant l'accouchement. Donc, on essaie de leur donner rendez-vous pour le 7e mois de grossesse.
D'accord.
Pas avant, hein, parce que ça sert à rien que, ils aient un bagage avant 7 mois, sachant que c'est des femmes qui n'ont pas de lieu souvent stable d'hébergement. Donc, t'imagines quand elles changent d'hôtel régulièrement pendant la grossesse, si elles doivent en plus se trimballer
Oui.
les bagages, voilà. Ça leur fait un peu d'une charge en plus. Donc, on essaie de leur donner le plus tard possible.
D'accord.
Mais aussi avant l'accouchement. Et quand c'est des femmes qui n'ont pas eu connaissance de notre asso avant et que elles arrivent à la maternité sans rien, ben là, parfois, les assistantes sociales des maternités, voire les sages-femmes, nous appellent pour nous dire, ben là, on a une femme, elle a rien, elle vient d'accoucher. Et voilà. On essaie d'organiser au mieux la distribution des bagages.
D'accord. Mais du coup, toi, en parallèle, tu travailles.
Oui, j'ai repris il n'y a pas longtemps. J'ai repris en
Ok.
septembre.
T'avais pris une pause.
J'avais pris un congé parental, en fait.
Ok. Ok, donc ça t'a permis d'un peu développer ton association.
Alors oui, en fait, oui, c'est marrant parce que justement, l'association, elle a vu le jour suite à un petit conflit que j'ai eu, on va dire, avec un employeur.
D'accord.
Parce que j'étais en arrêt.
Ok.
Et du coup, comme quoi derrière tout mal se cache un bien, en
Oui.
fait. Je me suis dit ça avec du recul.
Sage-femme, c'est t'es assigné à un hôpital.
Ouais, j'étais assignée à deux hôpitaux. Donc, un hôpital qui est vraiment au top de l'ouverture, au top de tout. L'hôpital qui s'occupe des femmes dont je te parlais là, dans la précarité.
D'accord.
Et puis un autre hôpital avec qui je travaillais, avec qui j'étais un petit peu en conflit.
OK.
Un petit peu beaucoup, mais au bout duquel finalement. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir du temps libre en fait.
Oui.
Du temps libre pour pouvoir développer l'association. Et puis après, donc avec mes congés, parce que comme j'ai eu deux bébés entre-temps, en plus de la première, bah entre-temps, du coup, j'ai pu avoir du temps un peu libre pour pouvoir. Voilà. En septembre, donc, j'ai repris en libéral.
Oui.
J'ai repris en libéral, du coup, ça me permet d'aménager mes horaires et tout ça. Mais bon, j'ai pas beaucoup plus de temps aujourd'hui, en fait. Du coup, heureusement que les collègues sont là pour pouvoir tout gérer, en fait.
Oui,
Tout gérer.
d'accord.
Moi, j'y vais à l'association une fois par mois maintenant, à peu près, voire parfois moins. Je gère de loin, on va dire.
Oui. En plus, j'ai vu que tu avais repris tes études, non?
J'avais, en fait, tu vois, quand tu es sage-femme, tu peux passer des diplômes en plus
Oui.
pour pouvoir soit faire de la gynécologie, du suivi de patientes. En fait, les sages-femmes, elles ne sont pas cantonnées.
En 2017-2018.
Ouais, là, c'était, je crois, le diplôme d'échographie.
Oui, je vois ça. Diplôme prévention et.
Voilà. Et puis la même année, voilà, prévention gynécologie, c'est ça. Les
D'accord.
deux diplômes la même année, ouais. Que j'ai eu, alhamdoulilah.
Ah bah, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah.
Et du coup, tu me disais que vous avez plusieurs différents projets maintenant, enfin, des choses que vous montez dans l'association. C'est d'étendre.
Voilà. Alors oui, on s'était arrêté à Pantin et en fait, du coup, il y a d'autres antennes qui se créent. Alors il y en a une qui s'est créée au Mans,
OK.
la ville du Mans. Je sais plus c'est où le Mans, les Maine-et-Loire, je crois, mais je suis pas sûre. Je veux pas dire de bêtises.
Ah, tu me fais passer
Ensuite, il y
pour
a
un inculte.
Rennes. Il y a une antenne là qui. Rennes. J'ose espérer que tu situes Rennes.
Oui, c'est dans le nord.
Attends, tu plaisantes.
Quoi?
Rennes. C'est en Bretagne.
En Bretagne, nord-ouest, oui, mais pour moi, c'est dans le nord, je suis de Lyon.
Ouais. La Bretagne, c'est la Bretagne quand même.
Ah, c'est le nord. Parce que au-dessus de Lyon, c'est le nord pour moi.
Et par contre, dans le nord, oui, effectivement, dans le nord, il y a Lille. Et Lille, il y a une antenne aussi qui se crée là-bas.
D'accord.
Donc, qui est montée par une collègue de l'hôpital où je travaillais d'ailleurs, l'hôpital mère-enfant. Et donc, c'est une collègue aide-soignante, AMP, qui maintenant, elle est moitié du temps à Lille et moitié du temps à Paris pour le travail. Et donc, elle est en train de monter une antenne à Lille.
Ok. Pourquoi vous êtes plutôt situé dans le nord de la France en fait, enfin Rennes, Le Mans,
Plutôt, mais
Lille.
attends, il y en a une là qui est en train de se créer à Marseille.
Ouais.
Et on est ravis parce que vraiment Marseille, il y a vraiment de la demande en fait.
D'accord.
Il y a vraiment des besoins. Donc, super, hein, qu'une antenne se fasse là-bas, c'est génial.
D'accord.
Donc là, on cherche encore sur Toulouse. Sur Toulouse, j'ai une piste, une sage-femme aussi, qui est intéressée pour monter une antenne à Toulouse.
Et Lyon. Lyon, ça vient
Et
pas?
puis Lyon, Lyon, on aimerait bien Lyon, justement.
Cool, cool.
Ouais, ça serait vraiment bien à Lyon.
Je pensais que vous aviez aussi d'autres, vous vouliez développer d'autres modules de votre association, je ne sais pas, d'autres services.
Alors, en fait, on a pensé à un moment. En fait, il y a une bénévole qui a créé, la même bénévole qui avait contacté toutes les paroisses. Elle a créé sa petite assoce qui s'appelle Un soir, un toit. Et là,
D'accord.
qui pallie aux difficultés d'hébergement, d'urgence. Parce que, faut savoir que cet hiver et encore aujourd'hui, tu as des femmes enceintes qui, quand elles, des femmes qui viennent d'accoucher. Et des femmes enceintes aussi, qui, quand elles sortent de maternité, n'ont pas de logement et donc sortent pour aller dormir sur le trottoir.
Terrible, c'est terrible ça.
Et ça, c'était intolérable. Très, très dur, c'est intolérable. C'est insupportable. Donc, Clémence, à l'époque, elle avait créé donc son assos, qui est un petit peu en stand-by suite à des petits, on va dire, problèmes personnels. Voilà. Elle a dû mettre un petit peu de côté. Et en attendant, Shiraz, donc ma coprésidente, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup carburé ces derniers mois et elle carbure encore aujourd'hui pour mettre ses familles à l'abri. Quand on lui envoie les signalements et elle a un listing de familles qui sont prêtes à
D'accord.
accueillir ses mamans bébés et elle les met en contact et elle suit comment ça se passe. Donc, si tu veux, ça fait plusieurs mois qu'elle est vraiment à fond dans le truc, dans l'hébergement. Mais.
Oui.
On se dit qu'il faut qu'on reste quand même focalisé sur la mission première et que l'hébergement, tout ça, ça doit être normalement du rôle de l'État de pallier à ça. Et c'est pas des. Même si on ne peut pas voilà, rester sans rien faire, parce qu'on ne peut pas.
C'est clair, si vous commencez à trop vous diversifier, ça va être compliqué de gérer à la
C'est
fois.
ça. C'est très compliqué parce que ça demande vraiment deux, trois temps plein, quoi, pour gérer que le pôle hébergement. Et à savoir que du coup, on a beaucoup, on a une vingtaine actuellement de familles qui sont hébergées par d'autres familles. Et tu as une personne, Julie, hein, que je salue plus, 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 qui héberge actuellement 16 mamans de bébé. T'imagines?
Wow, 16 mamans.
T'imagines? 16 mamans de bébé.
Truc de ouf.
C'est un truc de fou. Ça a commencé par deux, trois. Et elle ne pouvait pas, en fait, c'est une personne qui ne peut pas rester sans rien faire en voyant ses femmes. C'était insupportable pour elle. Et du coup, voilà.
Franchement, il y a des gens, ils font des trucs de fou, hein, comme tu dis.
Mais de fou, de fou, de fou.
Ils sont des personnes inconnues comme ça, qui accueillent des dizaines de personnes tous les mois.
Ouais, c'est pas ça qu'on te montrera dans les médias, tu vois. On te montrera d'autres choses qui vont essayer de diviser, qui vont essayer de te dire, ben non, on ne veut pas des réfugiés. Non, etc. Mais non, non, franchement. Dieu merci, c'est pas du tout l'image qu'on a, nous, des Français. Les Français sont ouverts. Même dans ma profession, tu vois, je le vois. Je suis sage-femme libérale là, depuis septembre.
D'accord.
La moitié de ma population, la moitié de mes patientes, c'est des non-musulmanes.
OK.
Et ça se passe très bien. Je n'ai jamais eu aucune remarque sur mon voile. Aucune. Et c'est des patientes qui reviennent me voir, tu vois. Elles pourraient dire, ah ben non, elle est voilée, j'y vais pas. Non, du tout. Je n'ai jamais eu aucun problème. Des patientes, quand j'ai un sens satisfaite, reviennent et voilà. Et c'est là que je me dis que vraiment, par rapport à cette problématique-là du voile en France, dont on a entendu beaucoup, beaucoup parler,
Oui.
c'est qu'un problème médiatique et politique. La population, elle s'en fiche.
Mais c'est clair que c'est les médias et l'État qui poussent un peu au conflit.
Bon, là, en ce moment, il y a le coronavirus, donc on nous lâche un petit peu les baskets. Mais bon, quand l'histoire du coronavirus sera passée, on reviendra sur le devant de la scène, c'est sûr. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège de se dire que les Français sont intolérants et tout ça, parce que franchement, tous les jours, je le vois et ce n'est pas le cas. Bien sûr, il y a des cas, bien sûr. Bien sûr, il y en a, c'est sûr. Il y a une minorité, une
Il
très,
y en a
très
partout.
faible minorité qui fait le plus de bruit, mais c'est pas, c'est pas celle
Qui représente la majorité. Ouais.
qui représente la France.
D'accord. On n'a pas parlé de ton parcours et tout cela est venu. Tu as grandi du coup à Melun?
Du tout.
Non, non, pas du tout. Ok, on va la refaire.
Melun, c'est une
Où
ville
est-ce que tu as
où j'ai
grandi?
été un petit peu parachutée. Alors, en fait, je suis née, j'ai grandi à Saint-Dizier, en Haute-Marne,
Ok,
non, en Champagne-Ardenne.
on fait un cours de géographie là
Comment?
aujourd'hui.
Ouais, tu auras fait de la géographie, là. Donc, c'est dans le nord-est de la
Ok.
France, c'est entre Reims et Nancy. pour te situer un petit peu la ville.
Ok.
Donc, j'ai grandi là. Après, du coup, j'ai eu mon bac scientifique, option SVT, sciences de vie et de la terre. Après, donc, je voulais faire médecine à la base. Donc, je suis partie à Reims. À Reims, faire mes études, la fac la plus proche. Et du coup, j'ai passé le concours de première année de médecine. Et je n'ai pas été classée au début là où je voulais. J'ai été
D'accord.
classée sage-femme. Donc, c'était un métier à savoir que sage-femme que je ne connaissais absolument pas avant de m'inscrire en médecine.
Oui.
Voilà, j'avais un peu la même image que beaucoup de gens, c'est-à-dire la personne qui sort les bébés et basta, qui fait les accouchements et ça s'arrête là. Donc, durant la première année, je me suis renseignée quand même sur le sujet. Je me suis dit, imagine si j'ai le concours en sage-femme, qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis renseignée, je me suis rendu compte que c'était un peu beaucoup plus élargi que ça. Et ben, du coup, après, j'ai intégré l'école de sage-femme qui a duré donc 4 ans à Reims. Et après, j'ai eu donc mon diplôme en 2008. Et je suis partie donc travailler dans un premier temps dans une petite maternité à côté de Saint-Dizier, donc chez ma mère, à côté de chez ma mère.
D'accord.
Donc je vivais encore chez ma mère, c'était trop bien.
Bonne époque.
Pendant 1 an et demi, voilà la bonne époque. Donc c'était une petite maternité, 300 accouchements par an. Donc toute familiale, on connaissait toutes les patientes, elles venaient pendant leur grossesse, on les accouchait, on les revoyait après avec le bébé. C'était génial. Mais malheureusement, une maternité qui a fermé aujourd'hui parce qu'ils ferment toutes les petites maternités comme ça pour tout regrouper dans des grosses structures pour faire des usines à bébés, quoi, en gros. Donc voilà. Donc après, bah, en fait, je suis restée, moi, j'y étais encore avant que ça ferme. Hein. Mais je suis partie de là-bas parce que je me suis mariée. Donc, mon mari travaillait sur Paris, donc je l'ai rejoint à Paris. C'est là que j'ai postulé donc, dans un hôpital qui n'avait pas encore ouvert. Donc, l'hôpital dont je te parle depuis le début, là, qui s'occupe des mamans, bébés dans la précarité
Celui qui est bien ou celui qui est pas bien?
médico-psychosociale. Celui qui est bien.
Ah, ça.
Les troubles de la relation mère-enfant, en fait, on suit ça. Donc, j'ai eu des diplômes en psychiatrie périnatale, psychopérinatalité, pour pouvoir bien faire mon métier dans cet établissement.
D'accord.
Et ensuite, donc au bout d'un an et demi, si tu veux, comme ils ne faisaient pas d'accouchement, les accouchements, ça commençait quand même un peu à manquer. Donc, je suis, grâce à la cadre qui était.
Bah, en fait, j'ai fait comme si tout allait bien, mais c'est quoi la psychopérinatale?
La psychopérinatalité, en fait, c'est tout ce qui est en lien avec la grossesse, la maternité, d'un versant psychologique. C'est un diplôme qui m'a permis de comprendre comment certaines pathologies psy pouvaient apparaître pendant la grossesse, comment les prendre en charge, comment les orienter, tout ça. Donc, je ne sais pas si tu vois.
Donc, du coup, je communique avec elle pour savoir s'il y a des troubles psychologiques liés à la grossesse.
Oui, sachant que, comme je te disais, l'hôpital là où je travaille, c'est que des femmes dans ce truc-là, qui ont des difficultés un peu psychosociales. Donc, c'est pour apprendre à communiquer avec ses mamans, apprendre un peu à comment à comprendre déjà, à les comprendre, et comment ces pathologies ont pu survenir et comment mettre au mieux les moyens pour pouvoir les aider.
Avant la naissance ou après la naissance?
Les deux. Il y a des choses qui peuvent apparaître déjà pendant la grossesse, notamment chez les femmes, tu sais, qui ont des addictions, tout ça. Des fois, c'est un petit peu dur pour elles de créer un lien avec le bébé.
Oui.
Celles qui font une dépression aussi pendant la grossesse, ça peut arriver hein, dès la grossesse, une dépression quoi. Et il y en a parfois, c'est après la naissance que les choses apparaissent, que les problèmes commencent.
D'accord.
Donc c'est vraiment un versant très très intéressant du métier que j'ai pu mettre en pratique et approfondir.
D'accord.
Donc les accouchements ont commencé à me manquer parce qu'on faisait pas d'accouchement là-bas. Et du coup, ben, ma cadre m'a fait rentrer dans une autre maternité pour pouvoir faire des accouchements. Et donc, j'ai fait des accouchements jusqu'en 2010. Après, bon, j'ai été en congé parental, tout ça. Et voilà, je suis toujours en congé parental de là-bas d'ailleurs, en plus du libéral.
Ok, super. La boucle est bouclée.
J'ai eu une petite expérience avant de lancer la sauce dans l'humanitaire.
Oui, j'ai vu
Je
ça.
suis partie, voilà. Petite, petite expérience, parce que normalement c'était 3 semaines et
À
ça a
deux
duré qu'une
S,
semaine.
Avenir
Ouais.
Santé Solidarité.
Non, ça c'est autre chose. Avenir Santé Solidarité, ça c'est une association qui a été montée par des professionnels médicaux il y a quelques années. et qui permettent de, comment dire, de mettre en, de ça a plusieurs versants. C'est un versant prévention pour la population. On fait des vidéos, tout ça, pour faire de la prévention sur diverses choses pour au sujet de la santé. Par exemple,
D'accord.
sur, on va dire, les maladies cardiaques, comment prévenir l'hypertension, pour le ramadan et la grossesse, que faire, est-ce qu'on peut jeûner quand on est enceinte, quand on a un traitement pour l'hypertension, est-ce qu'on peut jeûner? Enfin, on fait plusieurs vidéos de prévention en rapport ou pas avec l'islam, parce que parfois c'est vraiment des vidéos
D'accord.
générales, quand tu as une personne qui fait un arrêt cardiaque, qu'est-ce que tu dois faire? Les premiers gestes. Donc voilà, et puis il y a un autre versant où on intervient un petit peu dans les collèges, les écoles, pour faire soit de la prévention bucco-dentaire, de l'éducation à la santé, ou même de l'orientation, pour motiver les jeunes à faire des études, leur dire que ce n'est pas impossible quand tu viens même de banlieue ou d'une petite ville de faire médecine, par exemple.
Super.
Tu vois, ça leur permet de voir
Ça faisait un côté inspirant du podcast.
Donc, ça leur permet, quand ils voient des personnes, soit des femmes voilées, par exemple, qui font un métier, soit des jeunes qui viennent de banlieue qui sont médecins, tu vois, ça leur donne un petit peu une image concrète qui leur dit que moi aussi, je peux le faire.
Oui. Ok, j'adhère
Ben,
totalement
ça
ça.
aussi, je te mettrai en contact, si tu veux, avec l'un des membres.
Je veux bien, ça a l'air intéressant. Je suis sur le site internet, là, je vois que vous avez effectivement beaucoup d'activités, de vidéos, de conférences, tout ça. Et du coup, l'autre, en fait, c'était pas celle-là, du coup, c'était gynécologie sans
L'autre, oui, c'est
frontières.
ça. C'est vraiment une petite expérience, on va dire, parce qu'à la base, on était parti pour. En fait, ils cherchaient au mois d'août, juillet. Non, en juillet, on a reçu un message au niveau des sages-femmes comme quoi ils recherchaient
En
d'urgence.
2013,
Ouais,
hein.
c'est ça.
Juillet
C'est
2013.
ça. Et donc, message dans ma boîte mail, ils recherchent de toute urgence des sages-femmes pour mission Azaatari, donc à la frontière jordanienne. Avec la Syrie, la frontière syrienne. Donc, c'était à quelques kilomètres de la Syrie et où il y avait donc un camp de réfugiés. Donc, c'était un camp où, mis en place par des militaires français et où Gynécologie sans frontières était collée donc aux militaires pour pouvoir faire des accouchements, faire du suivi pédiatrique, tout ça. Et on avait en fait des réfugiés qui arrivaient tous les jours enceintes, tous les jours avec des bébés. Et donc, on était dans des préfabriqués là-bas, la journée, à faire les actes médicaux, à suivre ces mamans, ces femmes enceintes, qui souvent avaient tout perdu. Elles avaient perdu beaucoup de membres de leur famille, parfois leur mari, parfois leur fils, enfin bref. Donc, pendant une semaine, on est resté là-bas. Et en fait, normalement, c'était 3 semaines, mais ils nous ont éjectés au bout d'une semaine parce qu'il y avait trop de dangers. C'était suite à une attaque chimique. Tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une grosse attaque chimique et François Hollande, à l'époque, qui était président, il avait menacé de riposter, mais il attendait l'accord des Américains, qu'il n'a jamais eu, donc il n'a jamais riposté. Mais vu qu'on pensait qu'il allait riposter et qu'après, la Syrie, s'il voulait s'attaquer à quelqu'un, c'était à nous, parce qu'on était dans le camp militaire français le plus proche,
D'accord.
ils nous ont éjectés direct, quoi. On a laissé les femmes comme ça en travail, des femmes machin, on est parti. Donc voilà, c'était la petite expérience de Zaatari qui m'a fait prendre encore plus conscience de ce qui se passait là-bas, en Syrie. La catastrophe. Encore aujourd'hui, tu vois, j'aurais jamais imaginé en fait en 2013 qu'en 2020 ça soit la même chose.
À l'époque, quand tu devais te
Que
dire
7 ans
que
plus
ça allait durer
tard,
quelques
on
années,
laisserait.
puis ça allait se calmer.
Voilà. Moi, je me suis dit, c'est pas possible, ça va pas continuer comme ça. Et 7 ans après, c'est exactement pareil. C'est terrible, terrible, terrible.
Terrible, cette situation de guerre.
Je crois que c'est la pire situation qui puisse exister en fait depuis.
Et c'est ce qui t'a motivé aussi un petit peu à créer ton association?
Ça m'a, ouais, bah aussi, hein. Ouais, c'était bien avant ma grossesse, mais j'avais déjà récolté un petit peu de choses pour aller là-bas sur place, auprès de la mosquée de Saint-Dizier. Et donc, on va dire, le petit bagage, il a un ancêtre, Azaatari. J'étais arrivée avec plein de petits vêtements et tout. Les femmes réfugiées, elles étaient trop heureuses, trop, trop heureuses quand elles repartaient même avec des petites chaussettes et tout. Et ouais, ça m'a un petit peu. Je pense que ça a fait tilt pour quelques années plus tard, quoi, pour le petit bagage d'amour, ouais.
Oui, d'accord.
Et souvent même, ces réfugiés syriens, on les retrouve en France, quoi. On les retrouve à Paris, on les retrouve à Porte de Saint-Ouen.
Oui.
Souvent, elles sont passées par Zaatari quand tu leur parles.
Je savais pas. C'est une zone où il y a beaucoup de transit, en fait.
Ouais, mais pas plus que la Turquie, je pense.
Ouais. Ça a été quoi tes moments les plus durs depuis que T'as commencé ton travail de sage-femme et à l'association.
Par rapport à l'association, franchement, les moments les plus durs, c'est quand tu vois une femme enceinte arriver qui dit qu'elle n'a pas mangé depuis 2 jours et que tu es en France. Tu vois? Et qui te dit qu'elle a dormi à l'arrêt de bus. Ça, c'est des moments trop durs. Donc, quand tu vois des nouveau-nés, pareil, des nouveau-nés, tu te dis qu'ils ont dormi dehors avec leur maman, sur le trottoir.
Ouais.
Pareil, ça, c'est pas
Je
concevable.
t'imagine même pas que ça puisse encore exister dans un pays développé comme la France.
Mais voilà, exactement. Je te jure, même à Zaatari, je me dis, ils étaient sous détente au moins, tu vois. Enfin, ouais. Mais il y en a tellement, en fait. Des moments où, en plus d'être réfugiée, c'est maman. En plus d'être réfugiée, en plus d'être dans la précarité, ben, il y a la maladie aussi, tu vois. En plus d'être enceinte. Maman qui venait d'accoucher et qui te dit, ben, comment je fais? J'ai un cancer. Ou parfois les enfants malades, les réfugiés dont les enfants sont malades, puisque des fois on nous contacte pour des couches un peu plus grandes. On nous demande si on a des couches pour des enfants de 5-6 ans, tu vois, des enfants malades qui sont suivis souvent à l'hôpital Necker, à l'hôpital Robert Debré. Donc tu te dis, purée, ces familles, elles cumulent tellement en fait. Elles cumulent la précarité, elles cumulent l'exil, parce que c'est pas facile de quitter le pays où t'es né, où t'as grandi, où t'étais bien, comme si c'était un choix de vie en fait. Mais non, c'est pas un choix. C'est que voilà, c'est des personnes, elles n'ont pas eu le choix. Et ça, il y a beaucoup de gens, ils ne comprennent pas. Et en plus de ça, bah, se rajoute la maladie, la mort, tout ça. Tu te dis, plus rien, tu cumules tout à tous les niveaux. Il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas de paisibilité possible. Quand tu vois aussi la façon dont elles sont traitées, en fait, en général, c'est des personnes, tu te dis, bah, déjà, pour elles, ce n'est pas évident de venir demander des choses. Déjà, elles ont l'impression de plus avoir de dignité, plus rien. C'est pas évident pour elles de venir demander des choses. Et en plus, elles ont d'autres choses qui se rajoutent, les problèmes de logement. Tu sais, le 115, déjà, souvent, il n'y a pas de place. Même en hiver, ils étaient saturés, saturés. Donc, tu avais des personnes qui allaient dormir dans les hôpitaux. Les hôpitaux leur ouvraient les portes pour les accueillir dans les couloirs, les urgences, à même le sol, en fait. Et aujourd'hui, là, j'ai appris quoi hier? Que tu as des hôpitaux, ils leur ouvrent plus les portes à cause du coronavirus. Que par mesure de sécurité et tout, ben, ils sont mis dehors, en fait.
Dur,
Ah là 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 là.
dur, dur.
Ouais. Et donc, même quand elles sont dans des hôtels 115, il faut voir l'état des hôtels, hein. Il faut voir l'état. Souvent, c'est des hôtels complètement insalubres. Insalubres. Tu as des punaises de lit, tu as des cafards, tu n'as pas d'hygiène, tu as la gale. Des hôtels, des lits avec la gale, enfin, c'est complètement. Et puis, tu as des bébés qui ont des problèmes, des fois, comme ces mamans, tu vois, comme si elles ne cumulaient pas assez. Les bébés, ils naissent avec des petits problèmes de santé, soit prématurés, soit c'est des bébés vraiment fragiles au niveau respiratoire. Donc, tu les mets dans des hôtels comme ça, où il y a de l'humidité, des champignons et tout, c'est le coup sûr ou qu'ils se retrouvent encore hospitalisés après, quoi. Et des fois, tu te dis au moins quand le bébé est hospitalisé, ben, il est au chaud. C'est bizarre, hein, des fois, comment on raisonne, mais voilà. Et donc, les hôtels, voilà. Et même quand elles sont dans des hôtels pourris, je vais dire le mot, pourris, et ben, le 115 les change quand même d'hôtel. Des fois, elles changent toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc, il n'y a jamais de repère pour ces bébés. Ils sont toujours en train de changer d'endroit. Je ne sais pas si tu as des enfants, Abdel.
Non, j'ai pas d'enfant encore.
Ouais, pas encore. Ben, tu verras, on va te dire qu'un bébé, quand il naît, faut qu'il ait ses repères, faut qu'il ait sa chambre, faut qu'il ait son rythme pour dormir, tu vois.
Oui.
Faut qu'il ait toujours le même endroit pour pouvoir s'endormir paisiblement. Que tu mettes en place un petit rythme, en gros, d'endormissement, tout ça. Alors t'imagines comment c'est pas possible pour ces bébés-là. Ils n'ont jamais les mêmes murs. Ils n'ont jamais les mêmes repères quand ils grandissent, quoi. Donc tu te dis, qu'est-ce que ça va donner plus tard, toutes ces générations-là qui sont complètement déstabilisées, pour lesquelles on a complètement supprimé tous les repères, pour lesquelles aussi les mamans, les parents ne vont pas bien. Donc dis-toi, une maman qui ne va pas bien, qui se préoccupe aussi en plus de son bébé, de savoir comment je vais l'alimenter et tout ça, qui se dit, mais moi-même, comment je vais manger, comment je vais me vêtir, comment je vais dans où je vais dormir. C'est des personnes, elles ont des angoisses
Les problèmes, ils
permanentes. Elles
sont
ont des
beaucoup
problèmes.
plus. C'est un autre
Voilà.
level en fait. C'est un autre niveau.
C'est ça. Exactement. Et franchement, ça fait vraiment relativiser sur nos propres vies, quoi. Tu te dis, purée, mais on n'a pas le droit de se plaindre. Alhamdoulilah, on a un toit, on a une famille, on a à manger, on a tout en fait. On est en bonne santé.
Tout ce que tu vois là, ça t'attriste pas trop au quotidien, ça te touche pas trop.
Bah, ça dépend des situations. Si tu veux, comme je te disais, en ce moment, j'ai pris un peu de recul du fait de mon activité professionnelle, du fait des enfants, tout ça. J'y suis beaucoup moins. Mais au
Ouais.
début, quand même, c'était dur, hein. On est obligé de mettre des barrières aussi pour pas, entre guillemets, s'attacher. Mais on est obligé parfois de s'attacher. On s'attache. Tous les bénévoles, ils ont des petites familles chouchoutes, comme ils disent. Des familles chouchoutes, il y a toujours des familles qui sont toujours suivies par les bénévoles, qui sont toujours en contact. Et il y a des choses merveilleuses aussi qui se passent, tu vois, en parallèle. C'est très, très attristant. Mais des fois, quand tu vois bah, la solidarité qu'il y a avec ces familles-là, que les gens, ils ne sont pas insensibles. Parce que quand on a vraiment des gros cas urgents de personnes qu'il faut impérativement mettre à l'abri ou faut ramener à manger parce qu'elle n'a pas mangé depuis 2 jours ou quoi, bah, quand on lance des appels, franchement, les gens, ils répondent tout de suite, quoi. Ils répondent tout de suite, tout de suite. Et ça permet de se dire bah, que quelque part...
Y a de l'espoir.
Il y a toujours de l'espoir, voilà.
Oh.
Donc, pourquoi être triste?
C'est clair.
Comme là, tu vois, j'ai une petite anecdote.
Vas-y.
On a un acteur très connu qui nous suit et qui m'a appelé cet hiver.
OK.
Il m'a appelé quand? En décembre. En décembre, je te dirai après qui c'est, hein, mais je pense qu'il veut peut-être garder l'anonymat, il ne voulait pas trop qu'on fasse de bruit dessus, mais je te dirai après. D'accord? Tu couperas au montage.
OK, désolé aux auditeurs.
Et du coup, bah en fait, il m'a appelé en décembre avant Noël, en me disant, je voudrais accueillir une famille pour Noël, lui faire passer un Noël de rêve avec nous, avec ma femme, avec ma fille, pour que voilà. Pour qu'elle se sente bien et qu'au moins une famille puisse se passer un Noël digne et pas être dans son hôtel misérable ou à la rue. Donc voilà, donc on l'a mis en
D'accord.
contact. Après, finalement, on avait deux familles. On hésitait entre deux. Donc du coup, il a pris les deux. Il a pris les deux familles et elles ont passé un Noël de ouf. Ils avaient fait une enveloppe pour elles, des cadeaux pour le bébé, pour les bébés. Ils ont pris des photos même avec leur fille, les bébé qui était à côté et tout, mais c'était trop trop magnifique. Et puis il disait, est-ce que elle mange quoi? Halal, elle mange cachère, elle mange quoi? Nous on s'adapte. On s'adapte
Très gentil.
vraiment. Voilà. Donc ils ont été faire les courses exprès pour elle en fonction de leur régime alimentaire et tout. Ils ont fait des cadeaux. Les mamans ont eu des cadeaux, tout ça. Et puis après, elles sont reparties le soir bah, dans l'hôtel où elles étaient. Elle leur a payé des taxis aussi, du lieu d'où elles étaient et tout. Elle a tout pris en charge. C'était magnifique. Les mamans, encore aujourd'hui, elles nous en parlent. Tu vois, quand on les a au téléphone, quand Shiraz, elle les a, encore aujourd'hui, elles leur en parlent, quoi.
Ouais.
Et c'est comme si cette soirée, elle avait un petit peu changé la vie de ces deux mamans. Parce que depuis, elles se sont un petit peu plus reprises. Elles ont le sourire. Et là, elles sont en train de faire des cours d'alphabétisation, ce qu'elles ne faisaient pas avant.
Oui.
Elles ont décidé de se reprendre en main, quoi, tu vois. Donc, des fois, tu as une soirée, ça peut tout changer dans ta vie.
C'est clair. Est-ce que je peux nous donner un conseil pour les gens qui souhaitent monter un projet à impact comme le tien? Qu'est-ce qu'il faut garder en tête et qu'est-ce qui t'a aidé?
Alors moi déjà j'ai eu bah, le soutien de mon mari au début. C'était important, je pense, d'avoir son soutien
Soutien
pour
familial.
pouvoir mener à bout ce projet, même si après il a été complètement dépassé par tout le reste, mais bon, il regrette pas, hein. Bah, avoir je pense la motivation au début. La motivation, en fait, c'est ça qui fait tout. La volonté, hein, pour toute chose, hein, dans la vie, hein, que ce soit pour monter un projet, pour avoir un diplôme, pour tout, tout, tout. Bah, quand tu as la volonté, la motivation et l'entourage aussi qui va avec, et bah, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Et puis aussi, bah, invoquer Allah, quoi. Pour ceux qui sont musulmans, qui ont un projet, s'en remettre à Dieu avant tout. Et si c'est une bonne chose, de toute façon, il vous facilitera. Moi, il m'a énormément facilité. Tout a coulé de source après. C'était vraiment effet boule de neige. Et après, si c'est un mal pour vous ou pour autrui, eh ben, il vous en éloignera et de la plus claire des manières.
En fait, tu avais l'intention de faire du bien, tu as commencé et de fil en aiguille, ça s'est développé.
C'est ça, vraiment de fil en aiguille et très vite, alhamdoulilah. Et avec l'entourage aussi, hein, j'ai été très soutenue par mes amis dès le départ, qui m'ont beaucoup aidée d'un point de vue logistique. pour aller récupérer des dons, pour aller me ramener des dons, faire les collectes, faire les maraudes.
Oui.
Et d'un point de vue aussi, bah, on continue, quoi. On lâche pas l'affaire, on continue.
OK.
Et même aujourd'hui, hein, les bénévoles de l'association, en fait, sont devenus des personnes, enfin, celles que je connaissais pas avant, qui se sont rajoutées dans l'association. Aujourd'hui, c'est devenu des proches de mon entourage, en fait. Alors qu'avant, je ne les connaissais absolument pas il y a 3 ans. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu de très proches.
D'accord. Bah, c'est clair que vivre tout ça avec un groupe de personnes, ça construit des fortes amitiés.
Exactement.
Bah, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai une ou deux questions pour terminer.
Oui.
Est-ce que tu as une référence ou un livre, un podcast, une vidéo qui t'a particulièrement marqué, que tu souhaiterais recommander?
En général.
En général, oui. Ça peut être par rapport à ce que tu fais, mais ça peut être en général.
Alors, par rapport à bah, une vidéo, l'une des dernières que j'ai regardée, il y a une vidéo de Pas de quartier qui met en avant le travail d'Abdelali El-Badawi,
D'accord.
qui était aussi membre de mon association au début
D'accord.
et qui a monté un super projet, une super association qui vient aider, comment dire, qui aide les personnes qui n'ont pas accès facilement à la santé à ramener la santé vers eux, en fait.
OK.
Par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé, en partenariat avec Essilor, consultation ophtalmologie gratuite et lunettes gratuites pour des Chibani d'un foyer, notamment, et des personnes précaires, dont des personnes que nous suivions, le petit bagage d'amour. Et donc, c'est une vidéo qui résume très bien son action, comment ça a commencé et tout ça.
D'accord.
Donc, je vous la conseille.
Le nom, c'est quoi déjà, je disais?
Pas de quartier.
Ok.
Je ne sais pas si tu mets des liens sur tes
Oui,
podcasts.
je mets des liens en dessous de mes podcasts.
Voilà, je te l'enverrai.
Ok.
Je t'enverrai le lien direct pour la vidéo.
Ok, super. Si une personne souhaite rejoindre l'association, aider, enfin, il y a plusieurs moyens. On peut faire des dons, on peut rejoindre en tant que bénévole.
Oui. Alors, voilà, vous pouvez faire des dons de divers, soit des dons d'argent. On a un PayPal et un RIB qu'on peut vous communiquer. Vous nous envoyez un mail à un petit bagage d'amour @gmail.com.
D'accord.
Donc, c'est un petit bagage d'amour tout attaché
OK.
@gmail.com. C'est également le lien PayPal,
OK.
le mail pour notre PayPal si vous voulez envoyer un don PayPal.
OK.
Et pareil, si vous voulez faire des dons, donc en nature, si vous avez des porte-bébés, des poussettes, des comment on appelle ça? Des vêtements, de la layette, bébé. On ne prend pas pour le moment les habits adultes par manque de place à Saint-Sulpice, mais voilà, pour le moment, on est concentré vraiment que sur les bébés. On espère un jour avoir un grand local à Paris où on pourra accueillir les mamans dignement dans un fauteuil avec du thé. Parce que là, pour le moment, à Saint-Sulpice, à l'église, elles ne peuvent pas trop rentrer. Et on leur donne le bagage directement quand elles arrivent et elles repartent. Donc voilà. Bah, en attendant, vous nous contactez par mail et on vous donnera les heures de permanence pour pouvoir apporter les dons. Et si vous voulez faire du bénévolat, donc on a un groupe Facebook qui s'appelle Les Cigognes, un petit bagage d'amour, service d'aide aux jeunes mères. Je suis désolée pour le nom à
C'est pas grave, je
rallonge.
mettrai le lien,
C'est
ils ont qu'à
le nom.
cliquer,
Voilà.
ce sera facile.
OK. Top, top, top. Donc, c'est un groupe que vous rejoignez quand vous voulez faire du bénévolat et où nous vous informons de toutes les dates de permanence. Et vous pouvez venir quand vous voulez, il n'y a aucune pression. C'est vraiment bénévole. Quand vous avez du temps à nous consacrer et quand vous n'avez pas le temps, ben, on comprend tout à fait.
On peut aussi signaler ce qu'on voit, si on signale un besoin.
Oui, bien sûr. Voilà, si vous avez connaissance, ben, si vous marchez par exemple dans la rue, vous voyez une femme enceinte qui a l'air pas très bien. Vous pouvez nous envoyer un message en essayant bien sûr d'avoir son numéro de téléphone. Lui demander si elle a une assistante sociale et tout ça. Parce que c'est vrai qu'avoir une assistante sociale, dans tous les cas, ça va lui servir
Oui.
pour faire les premières démarches, les démarches les plus élémentaires. Parce que des fois, on nous dit oui, mais c'est chiant, j'ai pas d'assistante sociale, hein. Mais en fait, ça vous servira toujours d'avoir une assistante sociale.
Oui. Super. Bah écoute, Samra, je te remercie beaucoup pour ton temps.
Ben merci beaucoup, Abdel, pour l'invitation.
C'était très bénéfique, c'est très intéressant ton parcours et le travail que tu fais. Je trouve que c'est un travail important et enfin, On n'est pas assez au courant des acteurs qui travaillent dans ce type d'association. Et je trouve que c'est très admirable.
Merci infiniment.
Je te remercie pour tout et je te souhaite une bonne continuation, Inch'Allah.
Inch'Allah, ben merci beaucoup. Bonne continuation à toi aussi.
Merci, salam alaikum.
Alaykoum salam.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et inspiré. Si c'est le cas, je t'encourage à le partager autour de toi et à me donner tes impressions par email ou depuis la page Facebook Muslim Makers en description. Je m'appelle Abdelrahman Kourichi et je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode, Inch'Allah.